sur notre page Facebook VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir. De retour dans ce studio, Nanit Talani, pour vous présenter ce bulletin. Merci de choisir VOA Afrique pour vous informer. Il est exactement 19h en temps universel, 20h à Relizane et Sidi Bel Abbès en Algérie. En Guinée, le ministère de la Justice exige des explications sur l'interpellation de deux militants de la société civile. Une interpellation susceptible de remettre en cause une tentative de reprise du dialogue rompu entre l'opposition et la junte au pouvoir. Le ministère de la Justice laisse entendre dans un communiqué que les gendarmes ont interpellé les deux hommes en dehors des procédures. Abdoul Sako et Ismaël Diallo ont été interpellés samedi pour des raisons non communiquées, puis relâchés. Tous deux font partie d'organisations réclamant un retour rapide des civils à la tête de ce pays, dirigé par des militaires depuis septembre 2021. Au Cameroun, les élections sénatoriales ont débuté ce matin au suffrage indirect. Dans les 10 régions administratives, 10 partis présentent des candidats à 11 134 grands électeurs, conseillers régionaux, conseillers municipaux et chefs traditionnels. Mais le RDPC, le parti au pouvoir, est le seul à avoir présenté des listes dans la totalité des 10 régions et il contrôle 316 communes sur les 360 que compte le Cameroun. La chambre haute du Parlement est depuis toujours archi-dominée par le pouvoir. Dans le Sénat sortant, le RDPC et ses petits alliés occupent 93 sièges sur 100, les 7 restants revenant au SDF, l'un des deux principaux partis d'opposition. Au Cameroun, 70 sénateurs sont élus tous les 5 ans et 30 désignés par le chef de l'État. À l'Assemblée nationale, le parti de M. Biya et ses alliés disposent aussi d'une écrasante majorité de 164 députés sur 180 élus directement en février 2020. Une organisation de secours qui surveille les bateaux de migrants en Méditerranée affirme que des dizaines de personnes qui se trouvaient à bord d'un bateau en détresse qu'elle a signalé plus tôt aux autorités italiennes s'étaient noyées. Alarm Phone, qui tient une ligne d'urgence pour migrants en détresse, a tweeté qu'elle avait alerté les autorités italiennes tôt ce samedi sur une situation en détresse urgente d'un bateau au nord-ouest de la ville libyenne de Benghazi. Nous sommes choqués. Selon différentes sources, des dizaines de personnes qui se trouvaient sur ce bateau en détresse se sont noyées, a-t-elle annoncé ce dimanche.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Le syndicaliste italien Luca Vicentini, impliqué dans l'enquête pour corruption au Parlement européen, a été démis de son poste de secrétaire général de la Confédération syndicale internationale. La CSI assure cependant n'avoir trouvé aucune preuve de dons du Qatar ou du Maroc influençant ses politiques ou ses programmes. Luca Vicentini avait été interpellé en décembre dans l'enquête belge sur des soupçons de corruption d'eurodéputés impliquant le Qatar et le Maroc, puis libéré sous condition après 2 jours de garde à vue. Ici aux États-Unis, 8 personnes sont décédées dans le naufrage de 2 petits bateaux de contrebande dans la nuit de ce samedi à dimanche au large de la ville de San Diego, en Californie. C'est l'une des pires tragédies de contrebande maritime en Californie, à ma connaissance, a déclaré James Gatland, un responsable des services de secours de San Diego, qui semble faire référence aux flux migratoires entre le Mexique et les États-Unis. Les victimes sont des adultes, a-t-il ajouté, sans communiquer leur nationalité. Le groupe État islamique revendique l'attentat à la bombe en Afghanistan qui a tué hier un garde de sécurité et blessé 5 journalistes et 3 enfants dans la ville de Mazar-i-Sharif. L'attentat à la bombe a été mené contre une manifestation en l'honneur des journalistes afghans 2 jours après qu'un kamikaze a tué le gouverneur taliban de la province de Balkh dans un attentat également revendiqué par l'État islamique. Cet attentat a été provoqué par un colis piégé que les combattants de l'État islamique ont réussi à placer et à faire exploser lors d'un événement. C'est la fin de ce bulletin. Merci de votre fidélité. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, Eric Manilakiza avec vous sur la voie de l'Amérique, Joselle Morissin assure la mise en onde. Bienvenue dans le dialogue des religions en ce jour de la journée internationale de la femme. Tous les 8 mars, la femme est à l'honneur et ce soir nous parlons de la place ou du statut de la femme dans les confessions religieuses. Les motifs de mobilisation sont nombreux pour les femmes qui manifestent pour leurs droits bafoués dans le monde. Si les mouvements féministes prennent régulièrement pour cible les religions jugées patriarcales et contraires aux droits des femmes, l'histoire montre que le christianisme a pu jouer un rôle dans leur émancipation. Le Coran dote aussi la femme d'une personnalité distinguée. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. À Dakar se trouve Madame Penda Mbow, historienne et militante sénégalaise. Madame Mbow, bonsoir.
Bonsoir Eric, Monsieur Eric.
Signale que vous étiez ministre de la culture de votre pays. On va y revenir. À Montréal, au Canada, Nathalie Nyamoya, une femme engagée et membre du conseil pastoral de son église et coach de vie. Nathalie, bonsoir. Nathalie, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Eric.
Vous êtes également médecin. Il y a une maladie à guérir dans cette émission. Il faut trouver une très bonne statue de la femme dans les confessions religieuses, n'est-ce pas?
On va peut-être prendre des traitements de fond. Pas vraiment un traitement définitif, non.
Merci. On aura également Antoinette Kanyabutembo, qui est présidente et fondatrice de RPB USA, une initiative de prière d'action de grâce pour le Rwanda. Madame Kanyabutembo, bonsoir. Elle n'est pas encore là, elle va nous rejoindre tout à l'heure. On aura également Benoît Eliawazimbambi Kungua, président du Centre de recherche pluridisciplinaire sur les communautés d'Afrique noire et des diasporas, basé à Ottawa, au Canada, auteur de la théologie négro-africaine contemporaine. Je vais commencer avec vous, Madame Mbow. Est-ce qu'on peut percevoir les religions comme un frein aux droits des femmes?
Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, le Nouvel Observateur en France avait titré « Dieu est-il misogyne ?» C'était une question de fond. Si on se réfère à toutes les interprétations qui sont faites des religions, on peut dire oui, la religion favorise les hommes. Mais il faudra replacer toutes ces religions dans leur contexte, si vous voulez, d'émergence, pour comprendre ce qui se passe et revoir les interprétations de ces religions faites par les hommes. Ce n'est pas Dieu qui est misogyne, mais ce sont les hommes qui interprètent les religions qui sont misogynes. Et surtout qu'il y a une bonne part de l'histoire qu'on a tendance à gommer ou à falsifier ou à détourner. Il faudra revoir ce que l'histoire a fait et quelles étaient les relations des hommes et des femmes dans l'histoire religieuse. À partir de ce moment, on comprendra mieux et on pourra répondre définitivement à la question posée par le Nouvel Observateur il y a plusieurs années de cela. Dieu est-il misogyne? Je dis non, Dieu n'est pas misogyne. Ce sont les hommes qui sont misogynes.
Madame Mbow, au nom de l'islam, les femmes ne sont plus autorisées à étudier depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Ça, c'est un exemple. Est-ce que c'est une situation qu'on observe en Afrique où on voit une violation généralisée du droit des femmes à l'éducation?
Vous savez, quand on dit Boko Haram au Nigeria, dans le nord Nigeria, c'est Boko Haram. C'est-à-dire, ils interdisent l'accès à l'écriture de façon globale aux femmes. C'est parce que les femmes se situent au cœur d'une lutte entre l'Occident et le monde musulman, et ils interprètent comme ce qui se passe en Afghanistan, c'est inadmissible ce qui se passe en Afghanistan, comme ce qui se passe un peu en Iran, même si les femmes ont accès au savoir en Iran, et Nord-Nigeria, c'est-à-dire c'est l'islam politique, de mon point de vue, qui a détourné les interprétations pour un contrôle à la fois politique du monde, du pouvoir, mais en mettant les femmes au cœur justement de cette lutte et en reléguant au second plan ces femmes. Ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Je prends un exemple très simple. Quand on prend l'histoire, parce qu'après le Coran, c'est la sunna prophétique et les hadiths qui sont importants dans l'élaboration, si vous voulez, des sources et du discours religieux. Mais les hadiths, 90% des hadiths ont été transmis par Aïcha, qui était l'épouse du prophète Mohammed. Si les femmes ne pouvaient pas avoir accès, comment Aïcha, l'intellectuelle épouse du prophète, aurait-elle pu, si vous voulez, transmettre autant de hadiths, les hadiths qu'on considère comme les hadiths vrais, véridiques, au détriment d'autres qui ont été inventés par-ci, par-là. Moi, je pense qu'il y a une construction a posteriori dans les religions d'une vision négative de la femme et qui relève de ces sociétés indo-européennes qui ont la phobie de voir les femmes autonomes, tout simplement.
Madame Bow, restez avec nous. Nathalie, entre progrès et plafond de verre, comment vous évaluez le statut de la femme dans la religion? Est-ce que les lignes sont en train de bouger?
Bon, c'est vrai qu'il y a une grande progression de la présence féminine dans l'organigramme de la plupart des églises, hein. Mais il y a quand même plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord que grâce à l'évolution de la condition féminine dans la société, en règle générale, la femme a pu prouver qu'elle pouvait travailler, qu'elle pouvait faire du commerce, qu'elle pouvait être chef d'entreprise. Donc ça a permis quand même aux dirigeants responsables des églises de pouvoir penser, de voir que quand même la femme pouvait exercer une certaine autorité parce qu'elle avait prouvé dans la société. Il y a aussi une autre partie qui se remarque, c'est que quand même la plupart des hommes ont déserté les églises. Et actuellement, nous voyons qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les églises. Donc, il y a une certaine délégation de pouvoir ou une élévation du statut de la femme dû au fait qu'il y a beaucoup plus de femmes dans les églises en général. Mais cette évolution, elle est quand même là, elle est visible, elle est palpable.
Antoinette Kanyabutembo est avec nous. Je rappelle qu'elle est présidente et fondatrice de RPB USA, une initiative de prière d'action de grâce pour le Rwanda. Bonsoir Antoinette.
Bonsoir, et aujourd'hui je vais souhaiter à toutes les femmes une bonne fête des femmes.
Merci. Antoinette, comment vous parvenez à créer cette initiative? Vous n'avez pas été timorée, le fait que vous êtes une femme.
Au contraire, parce que la femme, selon la Bible, la femme, c'est comme une vigne féconde dans l'intérieur de la maison, dans l'intérieur d'une société, partout. En fait, la femme occupe une place très importante, même dans une famille. C'est la femme, en fait, qui, si elle se comporte comme il faut, c'est elle qui dirige le foyer.
Madame Bow, je reviens vers vous sur cette question de l'islam. On sait que le Saint Coran dote la femme d'une personnalité distinguée, fondée sur le respect de soi, sur la dignité et sur la noblesse du caractère. Si le prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, dit « Les femmes sont les cœurs germaines des hommes », ce n'est pas souvent ce que nous entendons ou nous recevons des enseignements dans les différentes prédications dans les mosquées.
Mais c'est tout simplement une ignorance de la portée profonde des textes religieux, les scripturaires de façon générale. Quand on prend le Saint-Coran, il y a une division très nette dans les sourates. Les sourates qu'on appelle les sourates mekwazes, ce sont les sourates courtes, les sourates qui insistent beaucoup sur le tawhid et l'unicité de Dieu. Ces trois sourates, on interpelle les femmes comme les hommes. Il y a ayyuhal mu'minin, il y a ayyuhal mu'minat, il y a ayyuhal muslimin, il y a ayyuhal muslimat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme dans la foi, dans la pratique religieuse. C'est l'interprétation qu'on a fait. Par contre, dans les sourates qu'on appelle sourates Mu'amalat, ce sont les sourates de Médine, qui sont les sourates longues, comme sourate Baqara, comme sourate Al-Nisa. Là, ce sont des questions de société qui sont traitées et il y a forcément l'influence de la société arabe sur ces sourates pour une meilleure compréhension. Mais c'est l'interprétation et la compréhension à un autre degré qui permet de dépasser cette vision tout à fait, si vous voulez, littérale des sourates. Par exemple, je prends une sourate comme la sourate Nisa qui porte sur la femme. On parle beaucoup de la polygamie, mais moi, je le dis toujours à mes étudiants, l'islam est une religion fondamentalement monogame. Parce que quand on considère les conditions dans lesquelles il faut aller vers la polygamie, ces conditions sont tellement difficiles à réunir que mieux vaut s'arrêter à la monogamie. D'ailleurs, c'est tellement vrai que pendant la période ancienne, le Moyen-Âge, un peu avant, on permettait à un homme d'avoir une femme libre, une seule femme libre, et que le reste était constitué d'esclaves qu'il avait achetés. Mais à partir du moment où il n'y a plus d'esclaves, on va se limiter à sa femme libre. Et c'est tellement vrai que même dans la pratique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dans sa pratique, il n'a jamais eu de deuxième épouse, tant que Khadija, sa première épouse, était vivante. Et le moment où il s'est mis à prendre des épouses, c'était la période politique de Médine, où il voulait amener beaucoup de tribus dans la religion musulmane. Et il n'a jamais accepté que sa fille, Fatima, ait une coépouse. Donc ça veut dire que quand on voit la pratique du prophète et les conditions qu'on retrouve dans la sourate Al-Nisa, la religion devient ipso facto une religion monothéiste, monogame. Et quoi qu'il reste, ce sont les hommes. Quand les hommes interprètent, ils interprètent à leur faveur et ils gomment tout le rôle joué par les femmes dans l'islam des origines, par exemple sur la conservation du Coran, c'est un Coran qui était conservé par Hafsa, une des épouses du prophète et qui était elle-même la fille du calife Omar, donc le deuxième calife de l'islam. Donc les femmes participaient. Et rien que la transmission de tous ces hadiths par une femme, Aïcha, ça montre le rôle. Parce qu'après le Coran, la source principale après le Coran, ce sont les hadiths. Et tous les hadiths ont été transmis par une femme. 90% en tout cas des hadiths véridiques. Donc il y a là tout un travail à faire, de mon point de vue, et tout le reste, c'est la culture arabe qui se déteint sur la réalité de la religion. Et tout le monde n'étant pas arabe, on peut ne pas accepter certaines interprétations. Et le plus important, je crois, c'est la foi, l'unicité de Dieu. Et là, tout le monde a les mêmes prérogatives et les mêmes devoirs.
Avant de vous laisser partir, Madame Bo, je sais que vous avez beaucoup d'obligations. Il y a eu cette influence du grand mouvement de foi et d'engagement social qu'est le réveil. Les femmes protestantes vont participer au mouvement d'éducation, de secours et d'émancipation féminine. Ça commence dès la fin du 18e siècle, tout le long du 19e siècle. Vous êtes historienne. Est-ce qu'on voit une telle démarche au niveau de la femme musulmane?
Mais vous savez, c'est la réforme protestante qui, à mon avis, a beaucoup libéré la femme chrétienne. Et pendant toute cette période du 15e, 16e siècle, il y avait une grande corruption à l'intérieur de l'Église. Et il a fallu cette réforme luthérienne avec la réforme de Calvin pour que l'Église puisse se remettre en question et qu'on ait le protestantisme. Et le protestantisme, qui est une religion chrétienne plus ou moins dépouillée de tout un certain nombre de ses artifices et qui se centralise sur l'Ancien Testament avec toute une traduction de fond menée par Luther en contrôlant toutes les langues, le grec, l'hébreu, etc. Ça montre qu'il y a là un effort intellectuel qui a été fait. Et cet effort intellectuel du côté de l'islam est fait à partir du moment où tout un questionnement se pose sur la participation de la femme dans l'espace public avec le développement d'un islam politique. Et il y a énormément de travail intellectuel social, un mouvement d'encadrement, d'intégration. Par exemple, quand on prend les sisters en Malaisie, elles jouent ce rôle. On prend les femmes dans les daïras ici au Sénégal, elles jouent ce rôle dans l'islam populaire. On y va. Et même en Afghanistan, où c'est extrêmement difficile, les femmes se sont mobilisées pour faire, ne serait-ce que de façon clandestine, des enseignements dans les maisons. Je pense qu'il y a toujours eu la résistance humaine, quelles que soient les difficultés. Et l'Europe a connu ces avancées avec la réforme protestante qui était venue corriger des tendances très négatives dans l'Église à partir de la fin du Moyen-Âge. Donc c'est vrai aussi pour l'islam. Et je crois que les musulmans vont continuer à jouer ce rôle.
Merci beaucoup.
Surtout les musulmans. Merci.
Merci beaucoup, Eric. Madame Bo, pour votre contribution dans ce dialogue des religions. Nathalie, vous êtes encore là. Les églises protestantes ont pris le pli des évolutions sociétales en propulsant des femmes au sommet de leurs instances. Le protestantisme reconnaît aux femmes la possibilité d'avoir de vraies responsabilités dans l'église et d'accéder au ministère pastoral. Mm-hmm. Qu'est-ce qui aurait favorisé cette émergence?
Alors, comme je l'ai dit, cette émergence a quand même débuté grâce à un changement de la société. Il y a une évolution de la société. Et comme Madame Beau vient de le mentionner, le mouvement guitérien qui est né vers la fin du Moyen-Âge a quand même favorisé l'émergence ou en tout cas la mise en avant de la position de la femme. Et puis je pense que c'est quelque chose qui s'est vu au fur et à mesure. Plus les femmes ont commencé à aller à l'école, ont commencé à lire et elles-mêmes ont commencé à se positionner, à prendre des moments de lire et de reméditer. J'ai beaucoup aimé surtout l'intervention de Madame Beau qui mentionne que le frein à l'évolution de la femme, c'est plutôt la mauvaise interprétation des Écritures, que ce soit la Bible. En tout cas, pour la Bible, c'est très clair. La femme a une valeur vraiment extraordinaire. Alors, tout ce qui s'est passé dans le suivi, dans ce qui est dans le temps, ça s'est basé sur le fait qu'il y a quand même une conscience sociétale. En premier lieu, et aussi à l'intérieur de l'Église, il y a eu quand même pas mal de changements.
Antoinette, les femmes sont reléguées à des seconds rôles. Que faire pour favoriser le rôle de la femme dans la religion et quelle position à adopter?
Pour le moment, je crois que les femmes sont en train d'avancer. Ce n'est plus comme avant. Par exemple, je peux donner l'exemple de notre pays, le Rwanda. Vous voyez la place qu'occupe une femme dans la société. Il y a plein de femmes qui sont qui ont des positions dans le gouvernement. C'est que la femme n'occupe plus la place qu'il avait avant. La femme occupe une très belle place maintenant. Tout dépend de pays et tout dépend de personnalités. Tout dépend d'où on se situe. Merci.
Oui, nous avons Benoît Elie Awazi en ligne. Benoît, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
La Journée internationale de la femme dans le dialogue des religions, vous écrivez beaucoup sur la théologie négro-africaine, n'est-ce pas? Quel est le statut de la femme africaine dans les confessions religieuses?
Ok, merci Eric. D'abord, je commence par souhaiter à toutes les femmes dans le monde une bonne fête. Une bonne fête où nous célébrons leur rôle spécial dans la vie de l'humanité. Alors, pour les religions, je parlerai sur au moins le christianisme africain, mais aussi pour les religions traditionnelles africaines, je dirais que la première fonction de la femme, c'est surtout celle qui porte et qui transmet la vie. Ça commence déjà à l'ouverture de la Bible avec Ève, qu'on appelle la mère des vivants. Et ça continue avec la Vierge Marie, qui est la mère du Sauveur pour nous chrétiens. Jésus-Christ, c'est le Messie que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Donc, d'entrée de jeu, je mettrai l'emphase sur celle qui transmet la vie, qui porte la vie et qui prend soin de la vie. Ça, c'est la fonction assez presque naturelle, assez traditionnel. Mais aujourd'hui, avec l'évolution du monde, vous savez, il y a une journée mondiale de la femme, c'est parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes des minorités féminine. Il y a des problèmes de cette de discrimination diverse que les femmes subissent selon les sociétés et les cultures. Et dans l'Église, aujourd'hui, disons dans l'Église catholique, il y a quand même la papauté, hein, le pontificat du pape François, il faut l'avouer, il pousse un peu vraiment, la vitesse un peu loin, c'est-à-dire le pape est même prêt, dans 2 ans, à nommer pour la première fois de l'histoire de l'Église des femmes au-dessus des dicastères, c'est-à-dire des femmes ministres du Vatican, des femmes responsables des dicastères. Donc je dirais que la femme, elle est valorisée comme celle par qui Dieu transmet la vie, mais en même temps, elle subit des discriminations, des injustices systémiques, aussi bien dans les églises que dans les sociétés. Voilà un peu ce que je dirais.
Lorsque vous parlez de la place de la femme dans nos sociétés par rapport à la religion, aux confessions religieuses, est-ce que vous nous dénoncer l'image dominante de la paternité de Dieu?
Bon, alors là, c'est une question tout à fait centrale, Eric. Alors peut-être pas dénoncer l'image de la paternité de Dieu, mais la contextualiser. Hein. Vous savez bien, en théologie, il faut interpréter, il faut contextualiser. En d'autres termes, je me limite au christianisme, je connais, Dieu, il est le principe. Hein. Même dans la Trinité, qui est notre dogme principal, il y a la monarchie du Père. C'est-à-dire, c'est le Père qui engendre le Fils, et le Saint-Esprit découle de l'amour entre le Père et le Fils. Il y a quand même, même dans la divinité, il y a le principe divin, hein, qui commence, bien sûr, qui s'auto-engendre. Mais en disant cela, quand on dit notre Père qui est aux cieux, c'est la prière que Jésus nous a laissée, par là, nous voulons dire que Dieu, il est la source ultime de la vie, parce que Dieu, il est au-delà de la polarité des sexes. Il est au-delà du masculin et du féminin. Et ça, c'est l'une des affirmations révolutionnaires et prophétiques de la révélation judéo-chrétienne. Hein? Vous avez vu dans l'Ancien Testament déjà, les prophètes vont se battre contre cette sexualisation de Dieu. Un Dieu de la fécondité, des plantes, des animaux, les Baals, fécondité de la nature. Hein? Le Dieu chrétien, c'est là que nous nous rejoignons à la révélation judéo-chrétienne, et au-delà de la polarité des sexes. Donc, je suis d'accord avec toi, on peut partir de la paternité de Dieu pour instrumentaliser les femmes, pour instrumentaliser différentes minorités, et faire un Dieu empereur, un dictateur. Ça, la théologie nous offre plusieurs figures historiques que vous connaissez bien, Eric. Donc, je résume ma position en disant que quand nous disons paternité de Dieu, il faut contextualiser, faire une herméneutique théologique consistant à dire que Dieu seul est la source de la vie. Affirmation massive et centrale de la révélation judéo-chrétienne. Dieu seul est l'unique force de la vie. Et je travaille effectivement ces questions dans le livre des Rois, par exemple, qui anticipe de beaucoup le Nouveau Testament. Dieu, Yahvé seul, est source de la vie et de la mort. Dieu seul fait vivre et fait mourir. C'est ça la paternité. Ce n'est pas, Dieu il est au-delà de la polarité des sexes. Voyez. Donc il y a une façon, parfois qui est basée sur l'idéologie ou l'ignorance, qui consiste à prendre paternité de Dieu pour faire une église dictatoriale et aussi pour instrumentaliser les femmes. Voilà.
Revenons sur le rôle du pape François dans le gouvernement.
Voilà, nous n'allons pas jouer toute l'interview avec monsieur Benoît Awazi, le temps file. Nathalie, je vais terminer avec vous. Il reste beaucoup de chemin à faire, n'est-ce pas, pour qu'il y ait, disons, cette égalité.
Oui, il y a absolument beaucoup de choses à faire, hein, mais il faut quand même qu'on commence à reconnaître déjà, et je pense que le 8 mars est là pour cela, reconnaître ce qui a déjà été fait. Parce que je considère que dans la Bible, pour ceux qui veulent prendre le temps de méditer, il y a beaucoup de références qui nous montrent que Dieu, comme on vient de le dire, n'a pas de préférence au niveau des sexes. Et d'ailleurs, je reviendrai sur un verset que j'aime beaucoup dans Galates 3, verset 28. Il dit qu'il n'y a maintenant ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Donc vous êtes tous un dans la communion avec Jésus-Christ. C'est très important de savoir que plus nous allons comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ, selon ce que la parole de Dieu dit, selon ce que la Bible dit, Cela va nous épargner beaucoup de combats. Et cela va permettre aussi à certaines personnes encore réfractaires de voir une femme qui prêche ou bien une femme qui prend certaines responsabilités dans les églises, de pouvoir à bien servir l'église. Parce que le but, c'est...
Merci Nathalie. C'est sur ce propos que nous mettons un point final à ce dialogue des religions. Merci à Madame Panda Mbo et Nathalie Nyamoya, Antoinette Kanyabutembo, Elie Awazi, Gisèle Morissin a assuré la mise en onde. Eric Manila qui a été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine.